Merci à tous ceux qui se joignent à nous pour cette deuxième heure d'émission. Vous allez entendre un témoignage vraiment d'actualité. Vous savez que aujourd'hui même, d'ailleurs, à Québec, la Commission citoyenne sur le droit de la famille tient ses audiences. En fait, les audiences se poursuivent. Vous vous souvenez, il y a une couple de semaines, on avait reçu justement les commissaires Maître Alain Roy et Maître Sylvie Sherm. On voulait parler justement de toutes ces modifications qu'on allait faire là, sur le droit de la famille. C'est des sujets importants. On vient de parler d'éthique, de valeur, d'honneur pendant une heure, la première heure. Je vous encourage d'ailleurs à aller la réécouter si vous en avez manqué des bouts. Mais cette commission-là, citoyenne, c'est-à-dire que vous pouvez aller présenter des mémoires, vous pouvez aller écouter. C'est important dans la mesure où c'est vrai que la société a changé, la famille québécoise a changé, la cellule familiale n'est plus ce qu'elle était, c'est autre chose, ça a évolué. La famille stéréotype, le père, la mère, les enfants, le chalet, le chien éventuellement. Mais bon, tout ça, ça a un peu éclaté, puis on est devant des modèles qui sont en train d'être essayés, d'être mis au jour. Bon, on fait un petit peu d'ajustement ici et là, et ça donne parfois des situations qui méritent qu'on s'y attarde. Et j'ai eu l'occasion, il n'y a pas très longtemps, on était à une séance de photos de procure, on va le dire, hein, Kim? Ouais. C'est là qu'on s'est rencontrés. Kim Sullivan, mon invitée, animatrice à Global News. Et je t'entendais parler de ce que tu avais l'intention de faire, c'est-à-dire que tu vas recevoir un don d'embryon prochainement parce que tu veux être maman et que jusqu'à maintenant, tu auras bientôt 40 ans et tu te dis, bon ben, il faut qu'il se passe quelque chose. Célibataire,
je me suis fait dire par je sais pas combien d'hommes, si tu avais déjà des enfants. Fait que je me suis dit, bon ben, à un moment donné, je vais le faire moi-même.
Il y a aucun, ça s'est jamais trouvé que tu as pu avoir un enfant avec jamais de relation assez non. satisfaisante pour que tu te dises on a un enfant ensemble.
Quelques-unes, mais ça l'aboutissait pas ou ça l'a brisé avant qu'on en arrive à ce point-là. Mais je me suis retrouvée à 35 ans, je m'étais toujours dit si je suis célibataire à 35 ans, je le fais. Mais à 35 ans, connaissant le monde des médias, on bouge beaucoup. J'ai redéménagé à Montréal, fait que je me suis dit ben non, je redéménage à la maison, je vais trouver l'homme. Pourquoi faire ça tout de suite? J'ai le temps. J'avais consulté un médecin qui m'a dit que j'avais le temps. Et finalement, à 38 ans, toujours pas d'homme, je me suis dit, bon, ben, je vais le faire tout seul ou je vais geler mes œufs.
Oui.
Et je suis allée voir le médecin, puis le médecin m'a dit, mon Dieu, it's now or never. Même si on gèle tes œufs, t'as peut-être pas de chance. Si tu veux le faire, puis t'es prête à le faire, je le ferai maintenant.
As-tu congelé tes ovules finalement?
Non, parce que j'en ai pas assez à tous les mois. J'ai ce qu'on appelle une réserve d'ovules très très basse. Donc à tous les mois, une femme de mon âge devrait peut-être en avoir 10. J'en ai 3, j'en ai 4. Fait que c'est très difficile de tomber enceinte. Je savais pas que mon désir de devenir maman, mon histoire de devenir maman solo, allait devenir une histoire d'infertilité.
C'est fou, hein?
Et j'ai essayé 4 inséminations, j'ai essayé 3 in vitro, puis c'est ma prochaine étape. Je me suis fait dire, si les œufs étaient plus jeunes, t'as peut-être plus de chance.
Oh, c'est dur. Avec nous, d'ailleurs, Judith Lucier, qui est journaliste, auteure du livre « L'aide à la procréation au Québec ». Merci d'être là, Judith.
Ça fait plaisir.
Toi, tu t'es intéressée, d'ailleurs, à la chose.
Oui, au moment où les services qui étaient totalement gratuits avant, universellement, ont été limités, je me suis intéressée beaucoup à cet enjeu-là parce que ça a des conséquences sur des personnes comme Kim. Puis ça pose plusieurs enjeux, plusieurs questions éthiques, plusieurs questions financières aussi, évidemment.
Ouais.
Kim reflète cette situation-là très bien. Elle vit les conséquences là, du resserrement des critères d'admissibilité au programme de procréation assistée.
Oui. En même temps, bon, d'un point de vue financier, tu veux dire, parce que...
Oui,
même temps, si tu as de l'argent, tu peux toujours aller dans une clinique, bien que il y a l'âge aussi qui joue. Et pour certaines cliniques, 40 ans, c'est juste trop tard, madame, on vous prend pas, là.
Mais ça dépend des personnes. Puis on dit que ça a un impact d'un point de vue financier, mais aussi au niveau de la santé, parce que Kim, on en parlait avant d'entrer en onde, va subir une procédure où elle va se faire inséminer plusieurs embryons à la fois. Puis ça, c'est quelque chose qui était écarté dans le temps où le programme était universel parce que comme c'était gratuit, il n'y avait pas cet enjeu financier-là de rendre la procédure le plus rentable, entre guillemets, possible. Tandis que maintenant que la procédure est plus coûteuse, ben c'est sûr que les parents à devenir veulent réduire les coûts et donc tenter avoir le plus de chances de leur côté. Donc, vont se faire inséminer plusieurs embryons à la fois, ce qui peut donner des grossesses multiples et donc occasionner certains dangers. Mais
on est encore limité à 2 embryons au Canada. On n'a pas le droit de vraiment en mettre plus que 2, à moins qu'il y ait vraiment une circonstance extrême, mais je sais que je suis dans des blogs de mamans des États-Unis qui s'en fait mettre encore 4-5, puis c'est un peu fou. Mais question monétaire, c'est vraiment ça. C'est si moi, je suis pour payer 10 000 $ ben je veux le plus de chances possible. Puis à ce point-ci, ça me dérange pas si j'ai des jumeaux.
Parlons du don de vue, le don d'embryon comme tel, parce que, bon, tu as fait plusieurs démarches, tu nous as dit infructueuse. Là, tu t'es tournée vers le don d'embryon. Puis c'est une belle histoire dans la mesure où, là, c'est un vrai don, hein, parce que
tu n'achètes pas ces
ovules-là, c'est interdit ici, de toute façon. Et raconte-nous comment t'as trouvé ta donneuse d'ovules.
Ben moi, j'avais, monétairement, je m'étais dit que je pourrais juste faire une séance de in vitro. Bien sûr, t'as l'émotionnel qui te prend après, puis le what if, puis les chances, puis j'en ai fait deux autres et 15 000 $ de plus tard. Mais entre-temps, j'avais écrit un blog, parce que je m'étais pas ouvert à personne encore sur le fait que je faisais ça, fait que je le faisais toute seule, fait que j'avais blogué tout le long. Et quand j'ai décidé après la première in vitro que ça n'avait pas marché, puis que mes chances monétairement et émotionnellement étaient finies, que je voulais plus faire ça, j'ai décidé de relancer mon blog, à vrai dire. Et j'ai une famille qui m'a trouvée. C'est t'as beaucoup de sites parce que maintenant que in vitro, le concept derrière in vitro, c'est on donne des drogues pour faire grossir le plus de follicules possible, qu'il y a le plus d'œufs possible. Puis en même temps, ce que les femmes savent pas, puis moi c'est ça que j'ai appris dans cette aventure là, c'est que on sait pas comment que notre corps fonctionne. Moi
tellement
tous les mois,
pas.
Je pensais que j'avais un œuf.
Ouais.
Mais t'en as pas juste un, t'en as jusqu'à 10, 20, 30, 40. Puis dès qu'il y en a un qui a vu là, toutes les autres meurent, tu sais, comme les abeilles. Là. Donc, il y a une queen qui se décide.
Fait, c'est qu'on nous dit pas, mais ça, c'est encore un défaut du fait qu'on n'ait pas de cours d'éducation sexuelle. Parce que, puis même dans les cours de sciences, on parle pas de ça. Là. Moi, je posais la question à mes filles. Est-ce qu'on vous a dit, c'est moi qui leur ai dit, vous savez, les filles, moi, je l'ai appris sur le tard, qu'on avait finalement comme une banque d'ovules. Chaque femme est unique et chaque femme a un nombre d'ovules prédéterminé. On choisit pas, c'est la nature, on est comme ça. Fait qu'il y en a qui en ont presque pas.
Puis
il y en a qui en ont plein.
Les meilleurs partent en premier. T'sais? C'est pour ça que les 14, 15, 16 ans peuvent tomber enceinte.
Mais tu sais, les facilement. Hommes qui nous écoutent, beaucoup d'hommes nous écoutent, puis on va parler de prostate au cours de la semaine, là, mais je peux juste vous dire que vous aussi, vous avez, au niveau des spermatozoïdes, les gars se font pas plus expliquer comment ça fonctionne. Là.
C'est vrai.
Puis eux aussi, au niveau des spermatozoïdes, Judith, tu t'es intéressée aussi à tout ça. Hein?
Oui, je suis pas une experte du spermatozoïde.
Non, mais c'est ça. Mais je veux dire, par rapport aux capacités des hommes
oui,
aussi,
on a l'impression l'impression que les hommes ont des capacités reproductives infinies.
Jusqu'à 85 ans sans problème.
Ce qui est relatif.
Voilà.
Mais c'est vrai qu'ils ont plus leur longévité dans le domaine de la procréation est plus longue que celui des femmes.
Mais quand on regarde, par exemple, les taux d'infertilité, on dit souvent que c'est un tiers, un tiers, un tiers. C'est-à-dire un tiers, la femme, donc, est infertile. Un tiers, l'homme est infertile. Puis il y a un autre tiers où on ne sait pas trop ce qui se passe. Et parfois, ça crée des surprises, parfois à des couples.
Mais c'est un couple sur six au Canada.
Oui, c'est fou, hein?
C'est vraiment
c'est énormément.
Mais oui, pour en revenir à comment j'ai trouvé la famille, ben c'est ça, fait que j'ai appris que le concept d'in vitro, c'était qu'il fallait qu'il y ait le plus d'embryons possible. Puis en 2014, ils ont fait une recherche et ils ont réalisé que depuis 1997, qui est quand in vitro a commencé, juste aux États-Unis, il y avait plus d'un million d'embryons dans des congélateurs qui étaient là, puis qui attendaient, puis qui se faisaient pas utiliser. Puis on fait, OK, ben il faut qu'on fasse quelque chose avec tous ces embryons-là, surtout avec la population qui agit, puis les gens qui font plus d'in vitro. Fait que les familles d'adoption, les agences d'adoption ont commencé, mais bien sûr, il faut que tu payes si on te matche avec une famille. Fait qu'il y a beaucoup de familles sur les réseaux sociaux qui se commencent des groupes pour essayer de trouver une famille à qui donner, parce qu'ils se disent, si moi, je donne mes embryons, je veux pas que cette famille-là ait besoin de payer une agence d'adoption pour... Fait que c'est comme ça que je les ai rencontrés. J'ai mis un profil sur Facebook. Puis,
Et ils viennent d'où?
Ils viennent de l'Angleterre. T'avais le droit de liker leur profil, mais t'avais pas le droit de les écrire. Puis en dans 5 heures, il y avait 26 personnes qu'ils avaient liké. Puis je me suis dit, bon, j'ai pas de chance, je suis une mère solo, ça va pas arriver. Puis 4 jours plus tard, ils m'ont écrit, puis on dit, on a passé 2 jours à regarder tes blogs, à voir tes vidéos. On trouve que t'es une belle personne. Est-ce qu'on peut te parler en personne? Fait qu'on s'est skypé, puis... Depuis, c'est ma petite famille d'adoption.
Et ils ont des enfants, déjà, ces gens-là?
Ils ont déjà un fils de 5 ans. Leur histoire à eux, c'est qu'il y avait 10 embryons. Elle avait les trompes de Fallope bloquées. Fait que c'était une jeune de 28 ans en santé. Puis, ils ont fait une vitro, justement, pour contourner ce problème-là. Ils ont eu un fils de 5 ans. Un fils, puis 5 ans plus tard, ils ont reçu la petite lettre par la poste qui disait « Hey, votre entreposage doit être repayé. » Puis, on fait « Hey, c'est vrai, on a des embryons. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie une deuxième fois. » Fait qu'ils ont décidé d'essayer pour un deuxième enfant. Puis, on dit « Ben, les autres, on les détruit ou on leur donne une chance à la vie. » Fait que pour eux, c'était, ils voulaient pas les détruire. Puis, ils se sont dit « C'est la luck que ces deux embryons-là nous ont donné un enfant. » nous donne des enfants. Les sept autres, qu'est-ce qu'on fait avec? Fait
c'est vraiment sept autres?
Ouais,
il y en a. Et toi, tu vas recevoir sept embryons?
Je reçois sept
embryons. Les sept à toi? Ouais. Wow! Ouais.
Fait que ça me donne, si on en met deux à la fois, ça me donne quatre opportunités de tomber enceinte si ça marche pas. Ou si ça marche, ben ça me donne une opportunité d'avoir des frères et sœurs plus tard.
Wow.
Parce que je peux les garder, c'est moi qui décide.
C'est super c'est intéressant. Parce que c'est vraiment un exemple de don altruiste pur et dur. Et en plus, ce qu'on sait pas aussi, c'est que le don d'ovule, contrairement au don de sperme, c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus, c'est une démarche qui est relativement intrusive. Et là, une fois que les embryons sont conçus, ben, c'est encore une autre étape de plus. Donc, c'est une bonne idée que la famille
parce
a
que,
eu de...
Donc, Kim, tu vas avoir donc ces embryons de cette femme en Angleterre. Là, tu vas avoir un don de sperme.
Ben non, parce que l'embryon...
Ou carrément l'embryon, déjà fait, là, c'est ça? Parce l'embryon est déjà...
C'est ça. Elle, c'est ses œufs à elle, puis le sperme de son mari.
Donc, c'est vraiment...
C'est vraiment comme un petit bébé de 6 jours.
C'est comme leur biologique à eux. Là.
À eux, complètement. Ouais. Complètement. Mais la prochaine option que moi j'avais, c'était d'utiliser des œufs de quelqu'un plus jeune.
Avec un sperme de donneur.
Avec un sperme de donneur. Puis comme Judith vient de dire, c'est il aurait fallu que je paye. Si admettons, j'aurais choisi Judith pour être ma donneuse d'œufs, ben, c'est moi qui paye le 9 000 $ pour qu'elle, on aille cueillir ses œufs.
C'est difficile. C'est assez intrusif. Ça implique que la personne qui donne ses ovules prend des hormones, se fait injecter des hormones. C'est une démarche relative. C'est quand même intrusif. Là, donc, c'est pas simple. Donc, non. Le fait que les embryons soient déjà conçus, c'est extraordinaire. Puis effectivement, de pas les perdre pour c'est comme donner au suivant.
Mais oui. Puis tu connais déjà leur grade. Fait que je sais déjà que c'est des bons embryons. Oui. Parce que, comme moi, j'ai fallu que je fasse. Ben, c'est ça. Moi, il a fallu que je fasse la procédure 3 fois. Puis sur les 3 fois, il y a une fois que j'ai eu un bon embryon. Les autres étaient qualité moyenne ou qualité.
Et comment tu sais qu'ils sont bons, ceux-là?
Parce qu'ils ont déjà été gradés, ils ont 6 jours.
Et comment
ils
les gradent?
Après trois jours, ils les gradent sur le nombre de cellules qu'ils ont, puis sur le nombre de la forme et tout. Puis après 6 jours, c'est si on éclos, puis qu'ils ont déjà le petit sac qui va devenir le placenta, puis fait qu'ils peuvent voir. Puis là, les miens.
Les as-tu vus?
Ah, j'ai vu une photo.
Des photos, bien sûr, mais tu les as vues en photo?
J'ai vu une photo, ouais.
Wow, comment on se sent?
Ben, je suis excitée. C'est comme une famille 2.0.
3.0, 4.0.
Ce qui m'excite le plus, c'est que j'ai toujours voulu avoir mes propres enfants, mais j'ai aussi voulu adopter. Moi, je me disais, je vais avoir 5 enfants, 3 des miens, 2 adoptés. Là, ça me permet d'adopter, mais de porter l'enfant que j'adopte.
Ouais.
Ça a été très difficile. Je dois dire qu'il a fallu que je fasse le deuil. Puis j'ai fait le deuil une fois, puis après j'ai comme eu un faux espoir parce que j'ai recommencé 2 fois, puis fait que le deuxième deuil a été encore plus difficile. Mais il a fallu que je fasse le deuil de pas avoir ma génétique, de pas avoir il y a mon petit nez ou il y a les yeux de papa ou tu sais.
Mais c'est drôle parce que quand on s'est rencontrés, tu regardais la photo du fils de cette famille anglaise qui te donne leurs embryons, puis tu dis regarde, c'est à ça qu'il va ressembler mon enfant.
Mais c'est ça, cet enfant-là va avoir un frère et ils ont 2 enfants.
Là, elle est enceinte avec. Okay. Fait que si moi je tombe enceinte dans les 2 prochains mois, on va avoir un bébé à 5 mois différents.
C'est là, ça. Puis génétiquement, son frère et sœur. En tout cas,
carrément là, génétiquement. Ouais, c'est ça.
C'est ça. Après ça, peut-être que l'histoire est pas finie. Parce qu'après ça, peut-être qu'ils vont vouloir se rencontrer. Ouais. Peut-être que vous allez vouloir faire des choses ensemble.
Bien, on a signé un contrat d'adoption Open Adoption parce qu'eux, ils veulent justement, ils ont dit, on aimerait ça avoir une photo à toutes les années, peut-être, juste pour pouvoir suivre. Ils m'ont choisi parce que j'étais assez loin qu'ils ne vont pas marcher dans la rue puis voir leur enfant biologique dans la rue. Mais pour eux, c'était vraiment on veut pouvoir suivre le processus, on veut pouvoir, tu sais, si Vinny, moi...
Mais il signe un papier comme quoi que c'est ton enfant.
Oui, on a signé un contrat de 12
pour
pages.
Pour pas que... Là, parce que ça, c'est toujours une crainte que...
Puis ça fait partie des choses qui sont en train d'être clarifiées par la...
On va s'arrêter ici. Si vous avez des questions, moi, je trouve que c'est fascinant de parler de ça parce que ça prouve que finalement, il y a plein de possibilités. Ça donne de l'espoir aussi pour ceux qui sont seuls. Il y a beaucoup de gens seuls qui n'ont pas de compagnon ou de compagnon. Puis là, ce qu'on raconte, évidemment, c'est une femme qui va vivre cette expérience, c'est Kim. Mais je parlais à un gars célibataire, un jeune homme de 36 ans, célibataire, depuis des années, qui se meurt d'avoir un enfant, mais qui ne trouve pas de blonde. Les hommes aussi peuvent, à la rigueur, faire ce genre de choses. Je veux dire, c'est pas que les femmes.
Faudrait peut-être qu'on se rencontre.
514-790-9850, 1866-790-9850. Évidemment, il y a toutes ces questions d'éthique et tout, mais vous en pensez quoi, vous, du fait d'être parent seul et de passer par la science comme ça pour avoir un enfant. À tout de suite, tout le monde. On a Mylène qui est avec nous, qui nous appelle. Bonjour, Mylène.
Bonjour, comment ça va?
Très bien. Vous avez entendu le témoignage de Kim Sullivan. Ça vous parle, ça, Mylène?
Bien, ça me rejoint énormément parce que je suis pas aussi loin qu'elle au niveau du processus, mais moi, j'ai eu ma première insémination artificielle le 3 juin.
Yay!
Donc, le 19, je vais savoir si je suis enceinte.
Oh!
Y a plein, ouais. Ils nous demandent d'attendre 16 jours parce qu'à cause de certains médicaments, on pourra avoir un faux positif.
Mm-hmm.
Ça serait vraiment pas le fun.
Ça fait longtemps que vous essayez, Mylène, d'avoir un enfant?
C'est ma première fois.
Avez-vous un conjoint?
Non, j'ai pas de conjoint. Je suis dans la même situation que Kim. Je suis overqualified.
J'adore ça! Overqualified, c'est bon ça. Ouais.
Donc, moi aussi, ça n'a jamais donné que j'ai une relation qui dure assez longtemps pour parler de bébé. Puis, tu sais, j'aime mieux le faire sur mes propres termes que de rencontrer un gars, faire un one-night, tomber enceinte, puis je sais pas qu'est-ce que j'ai, je sais pas qu'est-ce qui va. Tu sais, je connais pas, je veux pas gérer non plus l'histoire de pension alimentaire.
Ben, c'est ça, j'allais dire.
Ou de garde partagée.
Je suis même pas sûre que ce soit légal. Tu peux pas aller dans un bar, faire un one night stand pour avoir un enfant. Je pense qu'il y a des enjeux.
Ben, tu peux
cacher la grossesse comme ça, puis après ça.
Mais même utiliser un ami. Moi, j'avais considéré utiliser un ami.
Oui,
ils disent, ils disent qu'en dedans, le papier, le plan parental que tu décides de faire avant devient nul aussitôt que le bébé est né. Mm-hmm. Fait que dès que le bébé est né, il faut que ton ami décide de signer un papier qui dit non, moi, je résigne aux droits parentaux. Puis après, il y a un an pour revenir là-dessus.
Oui, c'est ça.
Fait que s'il y a un accident d'auto ou s'il perd sa job ou whatever, il peut te revenir. Là, puis, fait que moi, je voulais pas avoir ça comme papa. Là.
Mais ça, c'est intéressant. Là. Merci, Mylène. Vouliez-vous rajouter quelque chose?
Ben, en fait, je veux souhaiter bonne chance.
À toi aussi!
Ça va fonctionner. Merci.
À vous aussi. Je voulais juste peut-être vous demander votre entourage, Mylène. Les gens autour de vous, vos amis, vos proches, votre famille, qu'est-ce qu'ils vous ont dit par rapport à ce projet parental en solo, là? Vous êtes toute seule, vous avez décidé ça, vous faites un bébé toute seule. C'est pas, là, on en parle, on a l'air de penser que c'est, qu'on s'est acquis, là, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir un regard un peu jugeant là-dessus, qui vont dire, ben là, elle se fait un enfant toute seule, c'est quoi cette affaire-là?
J'ai eu toutes sortes de réactions. J'ai eu avoir un enfant toute seule, c'est difficile. Joint, mais avoir un enfant à deux, c'est difficile aussi. J'ai une chance sur deux de me retrouver toute seule anyway. Fait qu'au moins, c'est moi qui contrôle le résultat. Je contrôle pas quand est-ce que je tombe enceinte, mais je contrôle comment je vais gérer mes affaires. Ça, c'est pas, à mes yeux, dans ma tête, ça fait toute la différence. Puis, l'autre chose aussi, c'est pas tout le monde. Moi, je suis allée voir, il y a certaines personnes en qui j'ai confiance, que j'aime, puis j'ai eu des « ça coûte cher un enfant » à « tu vas être une maudite folle, mais tu vas être une maudite de bonne mère.
Ouais. »
Il y en a qui vous ont dit ça, « tu es une maudite folle. » »«
T'es une maudite folle, mais tu vas être une maudite de bonne mère. » Puis honnêtement, c'est le plus beau compliment qu'on m'a fait, parce que je sais que je vais être la... Tu sais, je vais être... autant que j'ai eu des parents qui étaient contrôlants, puis que j'ai pas fait trop de mauvais coups dans ma vie parce que j'ai pas osé, que mon enfant, ça va être... C'est, on sait jamais comment se tourner comme parent. C'est je verrai, mais... C'est un contrat pour pas juste pour les 18 premières années, là, c'est un contrat pour le reste de mon existence,
ça,
là.
Et ça, c'est clair. Et vous, Mylène, comment vous avez procédé? C'est dons d'embryons? C'est vos ovules? C'est ovules de quelqu'un d'autre avec le sperme d'un donneur? C'est comment?
Ben, en fait, c'est mes ovules avec le sperme d'un donneur.
Ouais.
Ça, j'ai trouvé ça. Puis, en fait, j'ai sélectionné un donneur pour. Moi, je voulais quelqu'un qui est caucasien.
Mm-hmm.
Donc, je voulais quelqu'un qui a un petit peu les mêmes origines ethniques que moi. Puis, par contre, je suis allée chercher un donneur qui avait des... Moi, je suis brune, j'ai les yeux verts, fait que je suis allée chercher des caractéristiques physiques qui pouvaient me ressembler. Puis, l'autre chose que j'ai faite, en fait, c'est que je me suis... c'est personnel à tout le monde, mais moi, le critère que je me suis donné, c'est que je suis allée chercher aussi des hommes qui ont des origines irlandaises, scottish... Donc, des gens qui avaient des origines européennes. J'aime les gens qui ont du caractère, fait que je voulais pas... Je veux un bébé qui a du caractère comme sa mère.
C'est pire qu'un site de rencontre, je vais vous dire.
Mais oui, c'est comme on se magasine un peu on se magasine son bébé, mettons.
Oui, on se magasine son donneur. Puis moi, je l'ai fait. J'ai pris un donneur ouvert.
Oui.
Comme ça, si mon enfant a rencontré son père à 18 ans, ben ce sera sa décision de le faire. puis ce ne sera pas moi qui l'aurai privé de ça avec un donneur fermé.
OK. Donc le donneur sait à un moment donné qui peut ou qui risque de ou qui aura peut-être la chance, ça dépend comment on le voit, d'avoir un appel d'un jeune, d'un ado, d'un jeune adulte qui dit allô papa.
Oui, mais il consent à ça.
Ouais.
C'est son call à lui. Moi, je peux pas le forcer à ça.
Mm-hmm.
Puis moi, dans le fond, dans mon choix de donneur, c'est on peut choisir, c'est un critère, un donneur ouvert, un donneur fermé, ou c'est pas important pour toi.
Et il habite où?
Je pense que la banque que j'ai, c'est un Américain, je pense.
OK.
La plupart des banques sont américaines parce que tu n'as pas le droit de te faire payer au Canada pour du sperme.
Alors que là-bas, c'est vous l'avez payé, le donneur. Donc, vous avez payé la banque, en fait. Oui, c'est ça.
Puis, les lois de Health Canada sont encore plus strictes. Fait qu'un donneur qui est accepté aux États-Unis, il faut qu'il passe par une quarantaine et une deuxième batterie de tests pour se faire accepter au Canada. Fait que les Américains ont beaucoup plus de donneurs ou choix de donneurs que les Canadiens. Moi, il a fallu que je passe par 3 donneurs parce qu'ils se faisaient sold out. Étaient tout vendus. Fait que là, j'étais comme, oh, tu recommences le processus à essayer de te trouver. C'est vraiment spécial.
Mylène, merci beaucoup. Merci beaucoup de votre appel. Puis bonne chance à vous. On va penser à vous le 19 juin.
Merci.
Merci c'est beaucoup. Gentil. Merci bien. C'est là, Judith, où en ce moment, c'est pour ça que je disais que c'est intéressant, cette commission citoyenne sur le droit de la famille.
Absolument.
Parce que il y a tout ça, là. Tout ça est discuté en ce moment parce qu'on parlait du projet parental. Hein. C'est Kim Sullivan qui disait, bon, il y a le projet parental. En ce moment, la loi sur le projet parental, c'est quoi un projet parental? C'est quand tu décides d'avoir un enfant en utilisant le sperme ou l'ovule d'une autre personne. Mais projet parental, c'est le désir d'avoir
projet.
Un enfant.
Oui, exactement. Bon. Ça peut être, moi puis ma blonde, on veut un enfant. Ça peut être un couple hétérosexuel qui a un enfant dans un contexte tout à fait traditionnel.
C'est ça.
Mais c'est d'indiquer dans le fond quelle est la teneur, c'est ça, qui sont les parents. Puis il y a plein de questions en ce moment par rapport à ça, puis qui touchent aussi même au-delà de l'infertilité ou des couples homoparentaux, toutes les reconstitutions familiales, les enfants qui peuvent avoir 3 parents, parce que, bon, dans un couple qui se sépare, il peut y avoir un beau-père, une belle-mère qui prennent une place significative pour l'enfant. Et tout ça, c'est pas encore encadré. Il y a Alain Roy qui a publié un rapport, je pense, il y a 2 ans, qui était très, très, très complet là, sur tous ces enjeux-là. Justement, bon, Mylène parlait là, du donneur ouvert, fermé. Ouais. Ça aussi, ça fait partie des questions là, éthiques qui sont soulevées par le droit de la famille. Puis le droit de la famille date de 1980. Je pense qu'on s'entend qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis 1980. Et toutes ces questions-là demeurent non répondues en ce moment.
Ouais.
Il faut s'y attaquer. Puis je pense qu'il y a... C'est difficile d'avoir une volonté politique là-dedans parce que c'est pas des enjeux qui sont hyper électoraux, hyper sexy là, du point de vue. C'est vraiment des questions éthiques et morales qui ont pas tant de bénéfices pour les policiers. Non, c'est ça.
C'est pas le pot, c'est sûr. Mais Kim, il y a plein de questions là. J'imagine vous en avez parlé, vous en avez discuté avec la famille de ces donneurs d'embryons. Eux, quelle place? Si tu disais tout à l'heure, bon, ils veulent avoir une photo de temps en temps, mais t'sais, après, il y a toi, tu sais, comment tu... C'est délicat, tout ça.
Moi, je voulais avoir une famille qui était ouverte à de la communication. Moi, j'avais aussi, comme Mylène, choisi un donneur ouvert parce que je m'étais dit que je voulais que mon enfant puisse rencontrer son père à 18 ans. Ben, son père biologique à 18 ans, mais aussi pour le fait qu'on enregistre nos enfants dans un registre. Puis moi, je me disais, ben, si je peux pas donner un père à mon enfant, je peux lui donner des demi-frères et des demi-sœurs. Puis dans ce registre-là, tu peux savoir toutes les autres mamans qui ont utilisé le même donneur parce que c'est un donneur ouvert. Puis il y en a beaucoup qui se contactent entre elles. Il y en a qui font des voyages entre eux, des pique-niques familiaux.
J'ai vu un documentaire fabuleux, un peu à la Starbucks, mais c'est un vrai documentaire. Vous l'avez vu, le nom m'échappe, mais c'était le Starbucks pour vrai. Là.
Oui. C'est fascinant.
Écoute, ils sont, je ne sais plus combien, là, ils sont vraiment beaucoup de monde. Là.
Mais je trouvais ça le fun. Ouais. Fait que trouver une famille qui était prête à justement... moi, j'ai dit, si jamais les enfants veulent se rencontrer, moi, je suis ouverte à l'idée. Si jamais vous voulez que je vienne en Angleterre, vous le présentez, je serais ouverte à ça aussi. Pour moi, c'est pas juste... Mon arbre généalogique devient le leur. Pour le restant de ma vie, je suis attachée à cette famille-là. Ouais, fait que pour moi, m'en détacher, ça serait comme mentir à qui je suis, qui mon enfant va être.
Puis, la question des donneurs ouverts, c'est hyper délicat parce qu'on a des cas d'enfants qui sont devenus adultes qui vivent une frustration très grande de ne pas pouvoir rencontrer leur donneur. Mais en même temps, le nombre de donneurs réduirait énormément, ça deviendrait de moins en moins accessible si on forçait les donneurs à être ouverts. Donc, c'est encore une fois, c'est une question hyper délicate. Puis, ce que j'ai retenu du témoignage de Mylène tantôt, c'est, elle dit, c'est vraiment un choix qui est très personnel. Tu sais, on sait pas quelles erreurs on va faire, puis qu'est-ce que nos enfants vont nous reprocher quand on va être vieux.
C'est sûr, il y aura quelque
mais
chose.
Il y a des questions. Peut-être qu'elle va se faire reprocher d'avoir eu un donneur irlandais. On ne sait pas. Ouais. Les enfants peuvent avoir des frustrations contre leurs parents, qu'on s'explique mal.
Ouais.
Mais en tout cas, tout ça, c'est des questions qui sont éminemment intimes.
Merci beaucoup, Judith Lucie. Merci bien. Kim, on va te souhaiter bonne chance.
Merci.
Vraiment, tiens-nous au courant.
Oui.
Je trouve ça fascinant parce que c'est tout à fait à l'image de la société d'aujourd'hui. Ça évolue, les familles évoluent également. Puis c'est beau d'avoir des projets parentaux aussi.
Moi, il va peut-être sortir avec un petit accent british.
Maybe indeed. Merci beaucoup, Kim, d'avoir été assez généreuse pour nous parler de ton projet. Merci bien. Plaisir. On va s'arrêter ici, très courte pause. Je vais vous demander après la pause, quel est le voyage que vous voulez absolument faire dans votre vie, votre voyage de rêve? À tout de suite, tout le monde.